Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette table ronde intitulée « Représentation autochtone et cinéma ». Elle s'inscrit dans le cycle « Au Canada, traversée documentaire » qui est organisé par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Et si cette table ronde a lieu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est aujourd'hui la journée canadienne de la vérité et la réconciliation. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'être en présence de Caitlin Workman, directrice du Centre culturel canadien, qui tenait vraiment à être présente pour souligner l'importance de cette journée. Et donc, Caitlin, je t'invite à prendre la parole.
Merci Marion, et tout d'abord bravo d'avoir programmé cette soirée particulière aujourd'hui, qui est une journée vraiment très importante pour nous au Canada, et je pense que tout le Canada et les personnes ici sont extrêmement touchées que vous avez fait ce choix. Donc merci. Donc effectivement, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ce jour a été institué comme jour férié au Canada, d'où mes baskets, en 2021, afin d'établir une journée commémorative pour rendre hommage aux survivants et aux survivantes autochtones du système des pensionnats résidentiels, ainsi qu'à leurs familles et à leurs communautés. Donc je me permets de vous faire une petite leçon d'histoire pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce pan du Canada. Et c'est vraiment le pan, je pense, le plus noir de notre héritage et de notre histoire en tant que pays. Les pensionnats indiens furent des institutions parrainées par l'État, gérées par l'Église, notamment catholique, et furent établies sous le prétexte d'éduquer les enfants autochtones. Toutefois, leur objectif principal fut d'enlever ces enfants, ces petites filles, ces petits garçons à leur famille et de les assimiler à la culture et la société canadienne dominante. On a souvent entendu parler, puis vous aurez peut-être entendu l'expression de tuer l'Indien pour sauver l'enfant. Donc depuis l'ouverture des tout premiers pensionnats dans les années 1830 jusqu'à la fermeture de la dernière école en 1996, c'est quand même très très récent, environ 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations du Canada ont été arrachés de force à leurs familles et envoyés dans plus de 130 établissements à travers le pays. Pas forcément la porte à côté. De nombreux enfants sont battus, sont victimes d'abus sexuels. En 2021, des tombes anonymes ont été découvertes à côté d'un certain nombre de sites de pensionnats indiens abandonnés. Et le consensus qu'on retrouve au Canada, c'est que ce n'est certainement que le début, en fait, de telles trouvailles, de telles tombes d'enfants anonymes et rendues anonymes. On estime que plus de 600 000 enfants ont perdu la vie dans ces établissements au cours des années. Et pour les survivants, les traumas intergénérationnels qui sont associés à ce système restent très présents de nos jours. Donc la journée du 30 septembre, cette journée choisie parce que c'est le jour où, durant des générations, ces enfants ont été enlevés à leur foyer et forcés d'aller dans ces pensionnats, nous donne non seulement l'occasion de réfléchir aux conséquences douloureuses et durables des pensionnats au Canada, mais aussi de rendre hommage aux survivants, à leurs familles, à leurs communautés. Elle nous invite à nous souvenir des nombreux, nombreux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux et à apprendre davantage sur quelles sont ces séquelles et quelles furent ces réalités. Enfin, ça nous appelle à affirmer, la nécessité de la réconciliation et à de nous investir tous et toutes au Canada, mais j'espère à travers le monde, dans le travail qu'il nous reste à faire. C'est donc l'occasion aujourd'hui pour nous tous et toutes de réfléchir à la façon dont on peut, individuellement et collectivement, jouer un rôle dans le processus de réconciliation. Ce chemin de la réconciliation, il passe bien évidemment aussi par la culture, par la libre expression, par la création et par le partage. Je suis donc très, très touchée, encore une fois, que vous ayez choisi ce soir pour proposer cette sélection de courts-métrages du Wapikoni Mobile et cette conférence qui la précède. Le Wapikoni est très important parce qu'en offrant des outils à des jeunes cinéastes autochtones pour s'exprimer, pour créer, ça ouvre une porte sur le monde pour l'expression autochtone et la mise en avant, comme vous allez voir plus tard dans la soirée, de talents émergents extraordinaires. Donc merci à vous, dans le public, d'être ici ce soir pour ce moment important. Je vous souhaite un moment qui sera riche en partage. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires sur la conférence et riche en réflexions. Donc merci, merci conférenciers, conférencières qui vont prendre la scène et que je te laisse présenter.
Merci beaucoup, Kathleen. Et oui, ce soir, on a le plaisir d'être en présence de trois personnes qui vont pouvoir nous éclairer. André Dudemaine, qui est avec nous et qui est arrivé de Montréal hier. Sophie Gergaud, qui est aussi avec nous et qui elle a fait un moins long trajet, mais qui est tout aussi bienvenue. Et Céline Petit, qui nous arrive aussi de Rennes, je pense. Voilà, de Nantes, pardon, excusez-moi. Donc je vous invite à venir vous asseoir et qu'on puisse commencer la discussion. Alors je vais d'abord commencer par vous présenter et puis vous rajouterez des choses si j'oublie quelque chose. D'abord toi André, tu as été réalisateur et animateur culturel. Tu as beaucoup œuvré en Abitibi-Témiscamingue où tu as fondé un festival qui existe encore aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Tu as enseigné à l'université Concordia qui est une université à Montréal. Tu es membre fondateur de Terre en Vue, une société pour la diffusion de la culture autochtone qui a donné naissance au festival international Présence autochtone, qui se tient à Montréal depuis le début des années 1990, si c'est bien ça, et tu es Innu. Alors dis-moi si j'oublie quelque chose, car tu as un parcours très riche et j'espère ne pas avoir oublié quelque chose d'important.
C'est un peu tard.
Alors, Céline Petit, tu es docteur en ethnologie. Tu as fait ta thèse entre Nanterre et l'Université Laval, à Québec. Tu es maintenant rattachée à l'Université Paris-Diderot et au CNRS. C'est bien ça. Et tes recherches portent sur les sociétés inuites et plus particulièrement sur les pratiques et les représentations associées à la notion de jeu chez les Inuits. Tu es membre de l'association Inuksuk, qui est l'espace culturel inuit de Paris. Et Sophie Gergaud, tu es ethnocinéaste et programmatrice indépendante spécialisée sur les cinémas autochtones. Tu fais partie de l'association De la Plume à l'écran qui organise depuis 2009 le festival Ciné Alternatif. Tu as aussi publié des livres et notamment Cinéaste autochtone barré. Je ne sais pas comment prononcer le titre, mais le mot autochtone est barré. Et c'est un livre qui a été publié aux éditions Varm en 2019 et que je recommande et qui a surtout été un soutien vraiment précieux pour réfléchir à cette table ronde. Donc je te remercie. Et avant de vous laisser la parole, je vais juste peut-être dire quelques mots sur la place de la table ronde au sein de ce cycle. Parce qu'en élaborant le cycle, ça a été une priorité pour moi d'accorder une place très importante aux représentations autochtones et mettre en avant des cinéastes et des films. Et il s'agissait à la fois de montrer le Canada dans son immensité du territoire, dans la diversité culturelle des communautés qui l'habitent, mais aussi dans toute la complexité de son histoire et une histoire qui est faite de colonisation au pluriel et de survivance au pluriel. Et moi, je suis québécoise et j'ai souvent entendu parler de survivance culturelle par rapport au Québec, à sa francophonie et à ses traditions. Et je pense qu'on m'a raconté une histoire qui montre souvent la couronne britannique comme symbole colonial, alors même que les Québécois francophones sont eux aussi des personnes qui ont, à un moment donné, l'histoire colonisée. Et donc, oui, j'ai peut-être été assez tôt sensible à la question de souveraineté culturelle, mais cette question se pose encore davantage pour les nations autochtones. Et donc, il a paru assez évident de mettre en lumière des créations autochtones, à la fois pour insister sur sa grande valeur, son dynamisme, et aussi pour rendre un peu plus visible ce qui avait été trop longtemps invisibilisé, donc des personnes avec leur visage et leur voix, des artistes avec leurs gestes et leurs regards, et des récits avec leurs enjeux et leurs narrations. Et donc au sein du cycle, j'ai décidé de montrer des cinéastes aussi autochtones plus anciens pour montrer que c'est une tradition cinématographique qui est assez longue et que maintenant peut-être des cinéastes autochtones sont plus souvent montrés en festival, mais qu'en fait ça existe depuis un bon bout de temps et qu'on leur accordait peut-être pas une place assez suffisante, et puis articuler ces cinéastes de la fin des années 60 avec une jeune relève que vous allez découvrir ce soir si vous restez à la projection ou à Piconi. Et puis j'ai aussi essayé dans ce cycle, et je ne sais pas si c'était une idée pertinente ou pas, mais en tout cas c'était une volonté de mettre en dialogue des films autochtones avec des films allochtones pour éviter de faire seulement des séances dédiées aux cinéastes autochtones et en fait essayer de créer des dialogues parce que les cinéastes autochtones créent des œuvres et que l'idée c'était aussi de mettre en dialogue des œuvres avec d'autres œuvres. Donc voilà. Ce soir et durant la fin de semaine, c'est un moment un peu spécial et effectivement c'est des séances dédiées et on profite surtout de la présence d'André qui vient de Montréal pour pouvoir présenter un maximum de films autochtones. Et donc André, je vais peut-être commencer par une première question pour un peu introduire au public, mais est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait général des différents groupes et nations au sein du Canada pour comprendre aussi la pluralité des réalités autochtones?
Bonsoir. Alors, je veux saluer le public présent. Hein, merci d'être venu. C'est toujours un privilège d'être écouté et entendu. Et puis, merci bien sûr à la BPI pour avoir organisé cette rétrospective. Géographiquement, le Canada. S'il fallait faire une carte ethnographique, on aurait un ruban tout le long de la frontière américaine au sud, où toute la population pratiquement est logée et où les nations autochtones représentent qu'un faible pourcentage de la population. Et puis après, il y a un large territoire très peu peuplé, donc avec une densité très faible de population, mais là où souvent les Autochtones sont, sinon majorité, ça l'arrive, et sinon à très forte proportion de par rapport à la population non autochtone. Donc déjà, il y a un premier clivage entre le sud et le nord qui correspond, en tout cas pour les Autochtones, à des réalités complètement différentes. Et plus on va au nord, plus que les communautés sont demeurées isolées, c'est le terme qui est employé, mais en fait, plus moins ils ont été en contact continu avec la société dominante au Canada. Donc, là où probablement les cultures sont le mieux préservées, mais là aussi où on trouve le plus de pauvreté, de manque de services et de difficultés sociales. Donc, une richesse culturelle d'un côté et une pauvreté physique, matérielle, souvent assez terrible, pas d'eau potable, pas de services médicaux, etc. Donc ça c'est, on pourrait dire, le portrait général du Canada. Il y a un philosophe canadien qui a publié, philosophe et sociologue qui a publié un livre, Alain Donneau, et justement parlant de ce raccourci de population dans le bas, il a intitulé son livre « Bande de colons ». Alors, bande, évidemment, jouant sur la notion de ruban et sur la notion aussi de cohésion, d'une sorte de, sans doute, de piraterie, quoique dans son livre, il distingue bien colonisateurs et colons comme étant deux notions différentes, quelque chose qu'on retrouve chez Albert Memmi, hein, qui est l'auteur canonique qui, au moment des grands combats du tiers-monde contre la colonisation, avait publié Portrait du colonisé. Et quand il a publié Portrait du colonisateur, pour une nouvelle édition de son livre, il a rajouté un long chapitre, Portrait du colonisateur, où, comme juif tunisien, il disait, on a été les instruments des colonisateurs. Donc, je peux très bien parler du point de vue du colonisé, du point de vue du colonisateur. Et c'est là qu'il a dédié ce livre à ses amis québécois. Et je pense qu'il y avait peut-être là une note moitié ironique et moitié avertissante, qui n'a pas été saisie chez les nationalistes québécois qui ont applaudi. Ah, ça y est, on est reconnu par comme faisant partie des vrais colonisés. Alors, donc, parce qu'il y a eu, et on aura l'occasion d'en parler, il y a toujours d'ailleurs, deux agendas très différents et deux façons de voir très différentes. Dans ce qu'on pourrait appeler la revendication souveraine ou de souveraineté des nations autochtones et celle de ceux qui s'appellent les Québécois, en fait les Canadiens français du Québec qui se voient comme une nation. Alors, et là aussi, il y a eu et il y a toujours des difficultés parce que les deux cheminent de façon fort différente. Je pense qu'en gros, c'est ce que je peux dire maintenant. Voilà.
Merci beaucoup, André. Et je pense aussi que pour introduire, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je pense que oui, c'est que on utilise là ce soir le terme autochtone. Et il y a plein de manières qu'on a eu de désigner les personnes qui vivaient au Canada avant l'arrivée des Européens. Et je voulais savoir si toi, Sophie, par exemple, dans ton livre, je trouve que tu essayes de donner une définition de ce que c'est que l'autochtonie. Est-ce que tu pourrais nous éclairer et pourquoi on utilise ce terme plutôt qu'un autre et quels sont les autres termes à ne peut-être pas employer ?
Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'abord déjà d'être présent et présente et pour l'invitation. Je suis assez impressionnée d'être à côté d'André. Et du coup, je vais répondre à ta question, mais je pense que ça serait peut-être plus juste que si André tu veux, c'est toi qui décides, mais peut-être aussi, je pense que le point de vue d'André sur la question du terme autochtone, ça peut être intéressant qu'on commence par toi et aussi par comment ce terme est utilisé au Canada. Et après, je développerai en effet pourquoi autochtone est barré sur le titre de mon livre et toutes les questions qui ont traversé mes réflexions quand j'écrivais le livre. Mais voilà, je préférerais qu'on entende André d'abord, si tu es d'accord.
Oui, évidemment, quand M. Christophe Colomb a atterri, il y avait une mauvaise notion. Enfin, oui, la rotondité de la Terre, il l'avait bien compris, mais il avait pris des mauvais calculs de la dimension de la Terre. Alors, il s'est cru arriver en Asie, aux Indes. Hein. Alors, pour quelqu'un de la Renaissance, de la façon dont il voyait la Terre ronde, c'était quelque chose, c'est comme un scandale, là, ce continent qui apparaissait. C'était une sorte de monstruosité. Mais il y avait un certain Anaximèdre chez les Grecs qui l'avait bien calculé, mais son calcul s'était perdu avec le temps. Donc, se croyant en Asie, il a dit ce sont des Indiens. C'est effectivement le terme qui est resté. Et alors, il y a différents courants. Il y a certains endroits où, aux États-Unis, on dit Indians encore, et ça ne pose aucun problème. Au Canada, on est plus sensible sur les questions de vocabulaire, il n'y a plus personne qui veut entendre le mot indien. Les anthropologues, et là, c'est une sorte de barbarisme savant, ont parlé d'amérindien. Alors, c'est un terme qui allait bien dans les milieux savants. Il est passé dans la langue populaire. Et là, il incluait les Inuits. Et là, les Inuits ont dit non, 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 nous, on n'est pas Amérindiens, on est Inuits. Alors là, tous les autres Amérindiens, on a commencé à dire, ben non, on n'est pas Amérindiens. On est Cree, on est Mohawk, on est Innu. Enfin, bref, on va être appelé par notre nom. L'autre appellation qui est arrivée par un autre biais, c'est quand sous Trudeau père, dans les années 80, on a rapatrié la Constitution au Canada, parce que le Canada est encore, jusque dans les années 80, un dominion, hein, donc une colonie, au moins sur le papier, la Constitution était au Parlement à Londres. Et là, il y a eu une Constitution canadienne qui a été rapatriée, grand titre de gloire de Pierre-Éliott Trudeau. Mais les Autochtones n'étaient pas contents. Alors là, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de très... une ligne sur les droits autochtones. Et finalement, ça avait été fait pour tranquilliser l'esprit des parlementaires britanniques, disant, bon, une ligne, ça suffit, ça va. On n'a pas trop l'air bête et on peut donc rapatrier la Constitution au Canada. Et là, les Autochtones, pas contents du tout, l'Assemblée des chefs canadiens qui s'appelait la Fraternité des Indiens du Canada, la même année, réunit, c'est assez ironique, dans une ville qui s'appelle Victoria, tout à fait dans l'Ouest, on dit, ben maintenant, on n'est plus des Indiens, on est les Premières Nations. Et donc, c'est une affirmation politique, disant, on va s'appeler maintenant l'Assemblée des Premières Nations, pour s'opposer justement au nationalisme pan-canadien, parce que celui-là existe aussi, qui était bien représenté par Pierre-Éliott Trudeau. Alors, c'est des vocables qui ont suivi des cheminements et des destins un peu différents. Et dépendant des personnes à qui vous parlez, de là où vous êtes, de l'Assemblée, ça peut être accepté ou ça peut être contesté. Alors, puis, je pense que du côté autochtone, on a un certain plaisir à justement toujours maintenir ce processus-là en place, parce qu'il crée un malaise, mais ce malaise-là déstabilise justement et force la réflexion. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, avant, j'utilisais beaucoup le terme Première Nation et j'ai compris après coup qu'effectivement, les Premières Nations n'incluaient pas les Inuits et n'incluaient pas non plus les Métis. Mais parce que les Inuits sont arrivés après les Premières Nations sur le territoire et les Métis sont les descendants de personnes qui étaient d'Europe avec des personnes qui étaient autochtones. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire un début sur le vocabulaire parce que maintenant j'emploie le terme autochtone, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans mon langage au fur et à mesure.
Et c'est quelque chose qui est sans cesse, comme tu le disais, donc c'est très politique et c'est mouvant aussi, donc ça dépend des contextes dans lesquels on, des contextes desquels on parle, dans lesquels on parle et qui, à qui on fait référence. Donc on pose toujours cette question, est-ce qu'on dit autochtone, est-ce qu'on peut déjà rappeler que le plus important c'est de parler, c'est d'utiliser le terme, enfin le nom que la nation dont on parle, ou en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est présent, qui représente cette nation, comment cette personne s'auto-identifie et quel terme, et là on est sûr de ne pas se tromper, donc partir du local. Après la question qui se posait quand j'ai écrit le livre, où le livre porte sur tout cet essor du mouvement de cinéma à l'international, cinéma donc autochtone, à l'échelle internationale, on ne peut pas non plus, ça représente plusieurs centaines de peuples différents, donc on ne peut pas s'aventurer dans une énumération exhaustive. Il faut bien avoir des termes pour travailler, pour parler de tout ce mouvement qui existe bel et bien, donc quels termes on utilise en français, en anglais, il y a quand même un consensus sur l'utilisation du terme indigenous quand on parle de ce contexte international, en espagnol indígena, et en français c'est plus compliqué. Donc après, on parle donc aussi, comme je le disais, d'où on vient, des gens qu'on a rencontrés au cours de notre parcours. Moi, ce qui m'a beaucoup formée, c'est toute l'époque du groupe de travail sur la déclaration des droits des peuples autochtones à l'ONU, où là, pendant 20 ans, donc un groupe de représentants et représentantes autochtones ont travaillé sur l'élaboration de la déclaration. Et donc, il y avait parmi ces personnes des autochtones francophones qui ont donc énormément planché avec les traducteurs, traductrices officielles de l'ONU sur quel terme employer. Et donc, il y a eu tous ces débats-là où, dans le contexte français, francophone au sens large, on ne peut pas faire l'économie de notre histoire de l'indigénat. Et donc le terme indigène est fortement connoté et donc a fait débat dans l'utilisation à l'époque où il y avait donc cette réflexion sur comment écrire la Déclaration des droits des peuples autochtones et comment la quand les articles ont été écrits en anglais en premier, comment les écrire après en français. Donc toute cette expérience-là nourrit déjà ma réticence à utiliser le terme indigène en français. Et en plus, après, donc, il y a aussi des anthropologues, des linguistes qui ont travaillé sur plus l'étymologie des termes. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a appuyé les réflexions, hein, des personnes autochtones qui réfléchissaient sur quel terme utiliser en français. Donc indigène, étymologiquement, veut dire une personne ou une chose, puisqu'on en parle aussi pour les plantes. Une plante indigène, c'est une plante qui pousse, qui est vivante sur le territoire d'où elle a émergé. Donc une personne indigène, une personne avant l'indigéna, est une personne qui vit là où elle est née, donc qui n'a pas subi un processus de migration. L'autochtone se réfère étymologiquement plutôt à quelqu'un qui est né sur le territoire sur lequel il vit et dont les ancêtres sont également nés sur ce territoire. Et après, il y a aussi le terme aborigène, qui est là encore étymologiquement, donc réunit à la fois quelqu'un qui est né sur le territoire sur lequel il vit, dont les ancêtres sont nés également sur ce territoire, mais qui en plus étaient les premières personnes à avoir vécu sur le territoire dont on parle. En français, on utilise pratiquement essentiellement aborigène pour les peuples autochtones d'Australie. Et donc, ce qui fait plutôt consensus, c'est donc le terme autochtone. Alors après, autochtone barré sur le livre, parce que ça, je pense qu'on va en parler tout au long de la table ronde. Si ce terme est nécessaire pour travailler, pour parler d'un contexte international, en tout cas transnational, quand il y a plus de deux nations autochtones concernées par les propos qu'on émet, il est aussi, donc c'est un terme nécessaire, mais il est toujours imparfait puisque imposé de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de ce processus de colonisation. On parle de peuples qui ont énormément de différences. Évidemment, chaque peuple parmi ces peuples autochtones est distinct et a sa propre histoire. Mais il y a cette histoire coloniale commune et qui fait qu'aujourd'hui, il y a à la fois dans le traumatisme de la colonisation des choses communes vécues et aussi dans les solutions et en termes de cinéma, c'est très important, en termes de créativité, de tout ce qui a émergé de cette histoire commune de la colonisation. Donc vous avez des peuples très différents, mais qui partagent ce vécu commun. Et en termes de propos que je voulais développer dans le livre, donc qui émanent de 10 ans de parcours, même 15 ans de parcours dans les festivals internationaux de films autochtones, c'est aussi quelque chose qui existe, c'est-à-dire que cette communauté de cinéastes et de programmateurs et de programmatrices autochtones existe. Il y a une communauté de cinéma autochtone à l'international. C'est pas juste. Là, on a dépassé du coup le label extérieur imposé par un regard anthropologique ou occidental sur ces peuples qu'on exotise. Ça a une existence propre en fait. Donc c'est aussi un terme revendiqué. Et puis, on en parlera dans toutes les œuvres dont on va parler pendant la table ronde, mais c'est une relation d'amour et de haine par rapport à ce terme. C'est-à-dire que c'est très bien, tu l'as très bien dit dans ta volonté, dans ton intention de programmation, donc de dispatcher comme ça des films autochtones dans toutes tes séances de programmation pour qu'ils entrent en dialogue avec des œuvres non autochtones. Les artistes autochtones refusent dans la majorité des cas d'être labellisés artistes autochtones. C'est des artistes avant tout. Il se trouve que leur vécu, leur culture, ce qui nourrit aussi leur œuvre vient de leur identité autochtone. Mais voilà, essayer de ne pas labelliser, de ne pas enfermer et de ne pas toujours faire que des séances non plus à part, comme s'il y avait un genre autochtone. Parce qu'il y a en effet tout ce mouvement de cinéma autochtone qu'on peut réduire ça à un genre de cinéma, un certain type de cinéma. Et donc après, faut lire le livre pour le choix de pourquoi je l'ai barré, mais en gros c'est ça, c'est un terme nécessaire mais non suffisant. Et peut-être qu'un jour, parce qu'aussi en labellisant les choses, ça restreint mais ça permet de leur rendre une certaine visibilité. C'est aussi, je comprends que des séances entièrement de films autochtones peuvent avoir, j'ai eu cette discussion de nombreuses fois avec des responsables de festivals qui critiquaient comme tu parlais du festival Ciné Alternatif que De la Plume à l'écran organise depuis 2009, C'est un festival qui ne programme que des films qu'en tout cas l'équipe artistique considère comme des films autochtones. Et donc souvent, on nous reprochait cette, comme si c'était un ghetto, comme si on mettait de côté, on recréait ce regard qui met à part, qui exotise. Et en fait, le parti pris, donc j'entends cette critique, et en même temps, le parti pris, c'est de montrer la richesse de cette production, l'énormité des films qui existent. C'est assez impressionnant. Enfin, à chaque édition, les journalistes nous demandent si le festival va pouvoir tenir, parce que est-ce qu'on a assez de contenu pour programmer. Et en fait, le problème, il n'est pas dans un trop peu, il est dans un trop plein. On n'a pas assez de séances. Et donc voilà, si on ne dit pas que le cinéaste, la cinéaste est autochtone, si on ne dit pas qu'il y a tous ces films et qu'il y a de quoi faire un festival autochtone, on a du mal aussi à conceptualiser que ces films existent, en fait. Et donc c'est un peu comme notre festival, on le voit comme un tremplin pour d'autres programmateurs, d'autres programmatrices, d'autres lieux pour les faire entrer en dialogue avec d'autres films.
Merci beaucoup Sophie. Et maintenant qu'on a peut-être un peu défini les termes, même s'ils restent en mouvement, et aussi défini la zone géographique dans laquelle on va évoluer, c'est-à-dire juste le Canada, en fait on va essayer de réfléchir ensemble peut-être à la c'est assez évident, mais à la distinction entre un cinéma sur et un cinéma par les nations autochtones, d'un point de vue à la fois historique et économique. Et donc en fait l'idée de la table ronde, c'est de saisir les enjeux de souveraineté culturelle et de droit à l'autoreprésentation dans des contextes de rapport de pouvoir très forts, et notamment dans la domination par l'image qu'il peut y avoir dans le cinéma. Et je me disais qu'on pouvait donc commencer par le début au niveau historique, c'est-à-dire peut-être le début du cinéma anthropologique, qui, oui, va à la rencontre de nations autochtones, mais qui, en tout cas à ses débuts, tend à figer les populations vers qui elle va dans des modes de vie, des traditions, une idée en fait ancestrale et un peu, comment dire, immuable de ces personnes-là. Et je pense que un des films, par exemple, le film le plus ancien, celui qui a été le conservé et qui est le plus ancien au Canada, c'est justement un film de ce type qui s'appelle In the Land of the Headhunters, qui a été tourné par Edward S. Curtis en Colombie-Britannique, avec les Kwak, pardon, je prononce très mal, mais voilà, et qui est en fait le premier long métrage réalisé avec un casting entièrement autochtone. Aussi donc le plus ancien film conservé, qui date de 1914, et justement ce film peut être un exemple à la fois d'une idée d'aller vers l'autre, de lui donner une visibilité, et en même temps une manière de complètement exotiser, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, rendre exotique les personnes avec qui on fait un film. Donc je ne sais pas si Sophie ou si André, vous voulez parler un peu de ce film, de son histoire, si vous le connaissez ou pas. André, vas-y.
Mais rapidement aussi, il faut voir que il y avait la notion de « the vanishing race ». Tout le monde était convaincu que c'était un peu le destin des Autochtones. C'était écrit dans le ciel, ils allaient disparaître, ils étaient en train de disparaître. Et souvent, les réserves et même les écoles résidentielles étaient vues comme une façon d'adoucir cette disparition, qui était présentée comme une fatalité historique. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle The Vanishing Race, dont on pourrait parler, qui vient aussi d'un roman dont on pouvait parler. Mais on est encore aux États-Unis à ce moment-là. Alors, Curtis, d'ailleurs, comme Flaherty, cette façon de vouloir toujours représenter l'Autochtone dans sa pureté originale, avant le contact avec les Blancs. Et au début de Triste Tropique, justement, c'est ce que dit Lévi-Strauss, ce fantasme de l'ethnologue aussi, de rencontrer des gens qui n'ont jamais rencontré de Blancs, mais en étant là, déjà, au départ, l'ethnologue vient de briser cette idée qui est impossible de ce point de vue. Et donc, c'est connu, Curtis, il y avait une mise en scène pour effacer. Dans le cas de Nanook, vous pouvez taper mon nom et Nanook, vous allez voir, j'ai écrit des articles là-dessus. Et c'est étonnant d'ailleurs que ça n'a pas été relevé davantage. Quand Nanook est au poste de traite, si vous lisez bien les sous-titres, ils disent qu'il vient porter ses fourrures pour avoir des bonbons. Excusez-moi, mais les Inuits ont beau être naïfs et généreux, et c'est pas pour des bonbons qu'ils vont vous donner des fourrures. Alors, ils venaient chercher, bien sûr, des outils, des pièges en fer, des fusils, des cartouches, mais alors, on n'a pas question que ce soit montré dans le film, d'où cette espèce de détour un peu étonnant. Donc, mais cette façon de démontrer dans la pureté originelle, c'est une façon de dire que c'est quelque chose qui va disparaître. Et c'est d'ailleurs ce que Flaherty écrit, ce que Curtis écrivait toujours. Avant qu'elle disparaisse, il faut vite le prendre. Et ce qui aussi a créé l'idée que longtemps, un autochtone ou un Inuit ou quelqu'un des Premières Nations qui se présente, par exemple, comme moi devant vous ce soir, souvent les gens disaient: « Oui, mais t'es pas autochtone, toi. Écoute, regarde comment t'es habillé, là. Ça se peut pas. » Alors donc, il y avait aussi dans cette immuabilité dépeinte de l'image une volonté tout à fait mortifère, ou du moins une adhésion à une thèse mortifère, comme quoi les Autochtones étaient appelés à disparaître.
Oui, je vais juste compléter un petit peu pour notamment Nanook of the North, Nanook l'Esquimau. C'est effectivement aussi beaucoup une vision rousseauiste, c'est-à-dire c'est aussi l'anthropologie naissante qui avait ce sentiment d'urgence qu'il fallait documenter avant que ces civilisations, ces sociétés disparaissent du fait de, enfin en fait avant qu'elles ne soient corrompues par le contact des Blancs. Et effectivement, c'est vraiment l'image de Rousseau et du bon sauvage, et avec cette volonté donc d'occulter dans la mise en scène tous les éléments qui montraient en fait les effets d'une présence européenne ou euro-américaine ou euro-canadienne, donc y compris effectivement les munitions. Donc Nanook est représenté comme, enfin celui qu'on appelle Nanook est représenté comme chassant au harpon, alors qu'effectivement à l'époque il y avait déjà les fusils, l'influence aussi de la présence des baleiniers dès la fin du 18e et 19e siècle est complètement occultée. Mais en fait voilà, c'est effectivement cette idée aussi de la, comme tu disais, la pureté originelle, hein, et par opposition à la civilisation qui nécessairement corrompt et qui est vraiment la civilisation de la société industrielle par contraste.
Je vais rebondir sur ce que tu disais, André. Donc, c'était écrit dans tes articles et c'est étonnant que c'est pas. Moi, ce qui m'épate encore aujourd'hui, donc Nanook l'Esquimau est sorti en 1922. On est en 2022, donc le film a 100 ans. Et ce qui m'épate encore, c'est que justement, alors je l'ai étudié, j'ai fait des études d'ethnologie et d'anthropologie visuelle, donc j'ai étudié Nanook en classe. Ça commence à dater maintenant, donc c'est en effet pas un secret toute cette mise en scène, c'est étudié maintenant depuis un moment dans les études de cinéma comme justement une mise en scène. Après plusieurs enquêtes et révélations, on essaye aussi aujourd'hui de montrer à quel point les autochtones dans le film, donc soit les Inuits, soit les Kwakiut, ont aussi une part d'agentivité, c'est-à-dire que ce n'était pas juste des pantins que Curtis et Flaherty mettaient là où ils voulaient, et même si la narration et la volonté, c'était bien dans la tête de ces hommes cinéastes, qui étaient d'ailleurs photographes, et Flaherty était, je ne sais plus quoi, mais enfin, il n'était pas cinéaste au départ. Prospecteur, voilà, minier, et financé par... parce que les deux films sont des œuvres de marketing aussi, donc financées par Morgan, multimillionnaire à l'époque, mais pour Curtis, et Flaherty, donc financé par Révillon Frères, donc
des marchands de fourrures
français. Et donc à l'époque, c'est la naissance du cinéma, enfin on n'est pas loin de la naissance du cinéma, donc c'est pas... C'est, c'est souvent présenté comme des films documentaires, dans les meilleurs des cas présentés comme des docufictions. À l'époque, on ne parlait pas de documentaire, le cinéma était naissant et c'était une passion pour cette technologie, pour comment servir par des images animées un récit que ces deux hommes-là avaient dans leur tête préconçu. Après, en effet, ils ont collaboré avec les populations avec lesquelles ils ont travaillé, là aussi c'est une époque où les rituels ou tout ce qui était sacré était interdit à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc les personnes qui sont dans ces films sont aussi très heureuses de pouvoir rejouer des cérémonies et puis aujourd'hui pour les descendants et les descendantes de ces comédiens et ces comédiennes, parce que c'est ce que c'était, c'est aussi très important d'avoir une image de leurs ancêtres. Donc c'est plein de nuances de gris pour ces films. Et le matériau, les analyses, toutes ces nuances, en fait, existent. Il y a des textes, il y a des documentaires. Je n'ai plus le titre du documentaire pour Nanook, là, quand ils reviennent dans la communauté.
Je crois que c'est Kabluna, enfin de Radlonark.
Voilà. Donc il y a aussi des films. Enfin, il y a énormément de matériaux pour qui est prêt à entendre que c'est de la mise en scène, qu'en même temps, les Inuits et les Kwakiut dans le film ont participé, ont coécrit certaines scènes, ont conseillé les réalisateurs. Donc tout ça existe. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'encore aujourd'hui, Nanook, surtout Nanook, In the Land of the War Canoes, au départ c'était War Canoes, Headhunters, et après c'est devenu les War Canoes, un peu moins, mais il y a une ressortie en 2014 en France d'une version remasterisée la musique a été rejouée par Rodolphe Burger. Donc il y a eu encore quelques sorties en salle de ce film, mais c'est beaucoup Nanook quand même qui est immensément projeté. Et alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut censurer Nanook, mais il faut le projeter pour ce que c'est et l'accompagner de commentaires, parce que c'est passionnant. C'est passionnant à dépiauter, à analyser Nanook et aussi le film de Curtis. Là, je me suis amusée ce matin à faire une petite recherche sur Google des dernières projections de Nanook. Et en fait, les trois dernières, Nanook est encore présenté comme un documentaire, comme le premier film ethnographique. Et il est souvent programmé en médiathèque à destination d'un jeune public à qui on dit qu'ils vont découvrir le quotidien d'une famille d'Esquimaux, que le spectateur va partager la vie de cette famille et que la magie du film réside dans le fait qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils ne jouent pas la comédie. Et là, il cite Flaherty, c'est ce que Flaherty avait dit à l'époque. Et donc ça entretient aussi. Donc en fait, c'est pas tant est-ce qu'on veut savoir que ces films ont été mis en scène. Je pense qu'on a envie que ces films témoignent de cette vie d'avant le contact. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas pour accuser. Hein, c'est juste que là, c'est le théâtre actuel et public de Strasbourg. C'est quand même des grosses institutions qui ont les moyens de faire appel à des spécialistes ou des chercheurs, ou en tout cas d'avoir accès aux articles qui sont en accès libre sur Internet, qui expliquent un peu le contexte de Nanook. Donc je pense que voilà, il y a cette envie de se complaire dans cette vision exotique de l'avant, de comment un vrai Esquimau, de quoi ça avait l'air, qu'est-ce qu'il faisait, il pêchait, il luttait contre cet environnement très hostile, alors qu'aujourd'hui on a des centaines de films inuits qui nous montrent comment les populations inuites justement ne font pas que survivre en fait dans cet environnement. Là, Céline en parlera mieux que moi. Mais au contraire, on composait et on fait preuve d'énormément d'inventivité pour vivre et puis être encore là aujourd'hui de manière... Donc voilà, il y a vraiment cette question de pourquoi on programme ces films, et il faut les programmer et en parler. C'est aussi des œuvres, c'est des œuvres de cinéma, c'est des excellentes œuvres, mais pas les programmer pour les mauvaises raisons.
Et d'ailleurs, Céline, tu seras invitée à une séance destinée au jeune public en novembre autour d'épisodes de Touctou. Et donc, je ne sais pas si tu peux déjà en parler, parce que même si c'est... Bon, on fait un bond dans l'histoire, parce que c'est beaucoup plus tard, mais je pense que ça peut aussi être un peu lié.
Oui, alors Touctou, c'est une série qui a été commanditée par l'ONF et réalisée par Lawrence Hyde, donc envers 1970-1969. Et l'idée, c'est de montrer des éléments, des séquences de la vie quotidienne des Inuits avant la sédentarisation. Donc les jeux traditionnels, les jeux de force, le déplacement avec l'attelage de chiens, la chasse au caribou avec des arcs. Enfin, avec des arcs. Donc oui, ça c'est vraiment une série qui a été faite plus tard. Je voudrais juste revenir sur Nanook, pardon, parce que effectivement, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est la réception. Donc Sophie a très bien parlé de problèmes de contextualisation et d'explication autour de ce film quand il est programmé en France. Et c'est intéressant de voir aussi sa réception aujourd'hui dans les communautés inuites et notamment à Inukjuak, dans la région donc, où le film a été tourné, parce que les Inuits, en tout cas d'Inukjuak, sont particulièrement fiers de voir leurs ancêtres, ou souvent donc, des membres apparentés, qui jouent dans ce film. Et eux vont avoir un tout autre niveau de lecture que le spectateur français ou euro-canadien, c'est-à-dire qu'il voit très bien le jeu d'acteurs des différents acteurs, parce que en fait Nanook Adlakar et Adlak est un acteur, et au même titre que celle qui joue sa femme mais qui n'est pas du tout son épouse, enfin c'est vraiment une reconstitution. Et il y a notamment la scène du gramophone où on le voit feindre de découvrir le gramophone et il rigole beaucoup, et ça vraiment pour le public inuit c'est très manifestement un jeu d'acteur, un jeu scénique, et un acteur, un comédien qui joue avec la caméra. Donc en fait le film est quand même assez souvent assez bien reçu aujourd'hui, hein, il n'y a pas de critique. Alors il y a des critiques évidemment de la part aussi d'une plus jeune génération, je pense notamment à Tania Tagark, on voit bien sûr les usages qui ont été faits du film et comment ce film a contribué à perpétuer justement une image complètement figée de l'Inuk, et en même temps donc, comme c'est un film muet au départ, hein, avant qu'il soit sonorisé en 48, eh bien il y a vraiment une réappropriation, une forme de réappropriation culturelle, notamment par l'usage des jeux vocaux, enfin des Katajak. Donc, il y a un des films programmés qui s'intitule Le chant de gorge. Enfin, c'est souvent la traduction donnée, en fait. C'est plutôt un jeu vocal qui mobilise tout l'appareil phonatoire, mais donc, qui s'intitule Le chant de gorge. Oui, voilà. Et en fait, c'est aussi une pratique qu'on trouve très souvent dans les trames sonores de très nombreux films inuits, parce que c'est une pratique hautement culturelle, enfin qui situe vraiment la culture inuite contemporaine. Et donc des artistes comme Tania Tagark, mais aussi Evie Mark, enfin, des joueuses de gorge, ont vraiment utilisé le film de Nanook comme support aussi pour interpréter en fait leur propre, enfin quelle est leur propre lecture du film tout au long en recréant une trame sonore associée à ce film.
On va beaucoup parler de Nanook, mais je pense que c'est intéressant. Mais le point de vue de Flaherty, quand il arrive dans le Grand Nord et qu'il découvre les Inuits, il faut voir que Flaherty n'a aucune notion d'ethnographie. Hein. Il y va un peu avec son instinct, sa vision des choses, qui est celle... Et si peut-être le film a eu un grand succès, c'est qu'il comprenait très bien les codes, justement, de la société d'où il venait. Et à l'époque, ce qui était dit, ce qui était écrit, c'est que les Inuits vivant dans des conditions tellement extrêmes ne pouvaient que penser à leur survie. Hein, c'était c'était pas encore l'Homo sapiens, là c'est encore l'Homo faber, hein, pour reprendre les termes d'anthropologie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est des outils pour chasser, pêcher, puis manger, puis après ça, se reproduire. Après ça, il n'y avait pas le temps d'avoir une mythologie, d'avoir des histoires, d'avoir un art. C'était admirable, mais c'était leur limitation. Est-ce que c'était raciste? Limite, parce qu'on ne disait pas que c'était à cause de leur nature, mais à cause de la nature, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils vivaient. Or, justement, et là on peut arriver au temps contemporain, les deux longs métrages de Zacharias Kounouk, aujourd'hui très fameux cinéaste autochtone, Inuit, dirait-il? Non, pas autochtone, Inuit. Atanarjouat, l'homme rapide, et surtout, The Journal of Knud Rasmussen, son deuxième long-métrage de fiction. Journal of Knud Rasmussen, c'est que Knud Rasmussen est aussi un anthropologue, mais danois, dont la grand-mère était inuite. Et il a appris l'Inuktitut enfant de cette grand-mère. Donc, il connaissait les sociétés inuites de l'intérieur. Et quand il est venu au Canada, il a voulu être connecté avec, parce qu'on lui en avait parlé, la famille, le groupe d'un grand chaman, Ava. Et donc, il va avec ses assistants et il veut documenter justement toute la richesse de la spiritualité inuite. Et c'est là aussi que Zacharias Skounouk faisait un film avec les comptes rendus de Rasmussen. Et Rasmussen est allé dans les territoires du Nord-Ouest, en fait, ce qui est aujourd'hui le Nunavut, à l'époque même où Flaherty tournait son film. Et il y a plein de références, justement, dans The Journal of Knut Rasmussen à au film Nanook. Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, aussi, il y avait une différence. Comme on était sûr que les Inuits avaient à peu près aucune religion, on envoyait des missionnaires, mais on ne se préoccupait pas de chercher à démolir ce qui était là avant. Ça, c'est des Inuits convertis qui l'ont fait par la suite. Ça aussi, on retrouve ça dans les films de Skounouk. Mais donc, par contre, avec la très riche... tous les objets de culte, les masques, les costumes, les maisons longues, le potlatch sur la côte ouest, tout ce matériel-là avait été carrément détruit ou confisqué. Et tout d'un coup, des gens à qui on interdit toute pratique religieuse, tout d'un coup, un cinéaste arrive et là, vite, il faut refabriquer les masques, refabriquer les costumes. Le temps qu'on tourne, et une fois que c'est tourné, tout ça est remballé et vous n'allez pas recommencer, c'est bien interdit. Si vous recommencez, vous allez en prison. Donc, la démarche coloniale là, du côté Curtis était beaucoup plus affirmée. Visiblement à la Carrialac, en fait, arrêtons de l'appeler Nanook, c'est son nom au cinéma. Nanook, c'est tout simplement l'ours en Inuktitut. Alors à la Carrialac, visiblement prend un malin plaisir parce que Flaherty développait ses films là, puis le soir, les séquences étaient montrées et les Inuits rigolaient beaucoup, lui suggéraient des choses. Donc il y a eu quand même une certaine collaboration. Et ce qui est montré, c'est peut-être rejoué, mais c'est rejoué avec les acteurs eux-mêmes qui reconstituent quelque chose de leur quotidien ou peut-être du quotidien de leur père ou de leur grand-père, mais les techniques qu'ils montrent là, c'est des techniques qu'ils maîtrisent toujours. Quand ils harponnent les harpons, ils savent encore comment ça fonctionne. Donc, c'est pas le côté reconstitution que je trouve choquant chez Nanook, c'est justement cette oblitération de tout le souffle moral, spirituel, intellectuel, philosophique qui soutient une telle volonté de survivre dans des conditions adverses qu'il faut deviner parce qu'il n'est pas là. Mais par contre, et ça je trouve important, cette séquence toujours au poste de traite, on voit Nanook prendre le disque et le mordre en rigolant. Alors tout le monde, évidemment, du côté spectateur, surtout dans le sud, alors là on dit ah ben voilà le primitif qui comprend pas la machine. Mais si on regarde la chose d'un point de vue inuit, d'ailleurs c'est comme ça que se termine le film de Journal of Knut Rasmussen. Il y a un chaman inuit converti au christianisme qui fait manger de la nourriture interdite par tabou aux Inuits qui viennent le voir et qui sont affamés, en disant, en prenant ça, vous mangez les poumons du Christ. Et c'est une façon de... Et il sait que quand ils vont mordre là-dedans, les esprits, tout le monde des esprits va leur devenir fermé. Ils vont devoir maintenant se connecter au christianisme. Donc, c'est une sorte à la fois de geste de rejet, obligé de l'univers traditionnel, en même temps qu'une conversion forcée, mais ça se passe par la bouche. Et là, on est tout à fait dans la logique des populations chasseurs, où la nourriture, et particulièrement la nourriture animale, est quelque chose qui est très lié au monde spirituel. Et ce que Nanook dit, et là, il y a un autre message, que sûrement les Inuits saisissent, c'est votre technologie, ce n'est pas de la vraie magie. Hein? Vous arrivez avec votre magie d'homme blanc, et moi, je sais qu'il n'y a pas de spiritualité en arrière. Et que je peux mordre dedans, il n'y arrive rien. Et ça, c'est le sous-texte que Nanook envoie. Et là, déjà, je dirais, là, on a le geste fondateur du cinéma autochtone. Parce que, et là, j'ai fait d'autres analyses par ailleurs, on pourra en parler à un autre moment, mais le cinéma autochtone contemporain aussi. Tous les cinéastes vont vous dire qu'on s'adresse d'abord à notre nation, à nos gens. Alors, quand on a des films comme celui de Kunuk, il y a une lecture qui est faite pour le grand public dans les cinémas, mais il y a toujours un sous-texte aussi pour, parce qu'on sait comment le film va être reçu différemment, forcément, par les nationaux, dont l'image a toujours été caricaturée ou à tout le moins amputée d'éléments essentiels, et, ou quand ils ont ou complètement invisibilisé, tout d'un coup, quand avec les cinéastes autochtones, ils se redécouvrent, il se passe autre chose. Et ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement perceptible pour quelqu'un qui n'appartient pas au groupe. Et à mon avis, déjà, à la Karialak avait eu ce pressentiment en se jouant, tout en jouant, avec Flaherty.
Et justement, ces films du début du cinéma anthropologique, à la fois, ont cette façon de, comment dire, de créer des stéréotypes et d'amener le public qui ne fait pas partie de la communauté à avoir des idées préconçues à la fois des populations autochtones préservées de tout, peut-être un peu naïves, et en même temps, c'est quand même un geste qui essaie de faire découvrir déjà peut-être d'autres univers, d'autres mondes, en amputant, je pense, certaines parties, et en plus, là, ce qu'on voit par exemple de Nanook, c'est que le public qui à l'octone ne reçoit pas du tout le film comme on devrait peut-être le recevoir avec le second degré ou en tout cas le sous-texte ou je ne sais pas qui existe. Mais pour essayer d'avancer et pas rester sur Nanook, justement, on parlait tout à l'heure de Tuk Tuk qui a été produit par l'Office national du film, qui est une structure fédérale de production et de diffusion de films au Canada, qui est gouvernementale et qui a, je pense, à ses débuts et jusqu'à assez longtemps, je pense jusque dans les années fin des années 50, début des années 60. À essayer d'aller traiter de sujets autochtones, mais tout en soit en renforçant des idées préconçues, soit même en faisant des reportages qui venaient faire la promotion, par exemple, de pensionnats. Et voilà. Mais dans les années 60, il y a quand même un changement qui s'opère au sein de l'ONF même, et notamment avec un cinéaste comme Colin Lowe qui va s'intéresser aux réalités autochtones mais en leur permettant aussi de contribuer à la narration même des films et puis en créant aussi un programme qui s'appelle Challenge for Change, Société Nouvelle, dont on montre beaucoup de films dans le cycle et qui est un programme qui souhaitait vraiment mettre le cinéma au service de changements sociaux. Et c'est ce programme qui va permettre de créer les premières équipes entièrement autochtones au Canada. Donc c'est la naissance de l'Indian Film Crew à l'ONF en 1968. Et je pense que oui, cette initiative a été aussi facilitée peut-être par des évolutions technologiques qui amènent la caméra légère, le son synchrone et donc plus de facilité à faire un cinéma plus accessible, je pense, mais en tout cas, bon, on montrera trois films de l'Indian Film Crew en présence d'André demain à 17h. Et en fait, ces initiatives viennent vraiment, même si elles sont, créées par une instance fédérale, même si elles sont donc initiées par des non-autochtones, je pense que c'est des initiatives qui viennent répondre à un besoin nécessaire, et ce besoin est que des autochtones captent leur réalité avec avec des moyens de production qui leur sont offerts. Et tu parlais tout à l'heure de Zacharias Kunuk, qui est une vraiment grande figure du cinéma inuit. Il y a aussi comment dire, une autre figure assez importante qui, elle, a été dans le giron de l'ONF, qui s'appelle Alanis Obomsawin, qui est Abénakis et qui a eu un rôle assez important dans l'histoire du cinéma autochtone. Et j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu.
Ben, écoutez, on vous invite parce que l'Indienne Fenco, on va en parler, c'est assez... Il y a une histoire assez particulière, hein, parce que l'Office national du film du Canada aussi, c'est quelque chose qui a été en évolution. Il y a d'abord... c'est issu du service de propagande du film de l'armée canadienne, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand, dans les années 40, après la guerre, dans l'après-guerre, c'est encore une structure très mâle, de A à Z, très hiérarchisée, où le producteur a droit de censure sur toutes les œuvres et où, évidemment, le contenu est très dirigé. Il y a, son nom m'échappe, le fameux théoricien anglais qui a été appelé au Canada pour, comment dire, reformuler la mission de l'ONF, qui est venu et qui a dit qu'il faut justement exprimer la réalité du pays et de ses gens, donc il faut être près des gens. Et peu à peu, effectivement, il y a du monde, et avec, effectivement, vous avez raison, d'une part, les moyens de production, et d'autre part, tout un esprit particulier aux années 60, qui ont dit, si vous voulez être près des gens, laissez-les donc parler, au lieu de parler à leur place. Alors, c'est là qu'il y a eu une contradiction, et qu'à partir de cette contradiction-là, effectivement, il y a des choses qui ont émergé, et qui sont devenues comme des sortes d'incongruités pour quelque chose comme... l'Office national du film. Et encore une fois, pour ce qui est d'Alanis, on en reparlera plus longuement, puisqu'on a... Mais je souligne seulement que pour son film Ganesha Tagué, 275 ans de résistance, c'est maintenant le document filmique de résistance sur les événements de 90, où la résistance Mohawk avait pratiquement bloqué Montréal en bloquant les ponts à la circulation. C'est... une histoire de pratiquement de guerre. Hein. Montréal avait l'air de Beyrouth dans les actualités mondiales à l'été 90. Eh bien, c'est les Autochtones qui ont eu le fin mot de l'histoire avec le film d'Alanis. Le récit de la crise d'Oka, c'est maintenant la référence, c'est celui d'une grande cinéaste autochtone, ce qui est vraiment singulier. Alors là, on est vraiment dans une particularité canadienne. Généralement, je suis très critique vis-à-vis du Canada, mais là, ma foi, quand même, il y a quelque chose de bien réussi.
Oui, c'est pour rebondir. Donc, le film d'Alanis, 270 ans de résistance, est en accès libre sur le, y compris. Depuis la France, sur le site de l'ONF, donc onf.ca. Donc regardez-le pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. 78 jours de siège, Alanis était là depuis le début, il y avait d'autres équipes de télévision, mais elle, dès qu'elle a entendu qu'il allait avoir les barricades, a demandé à l'ONF une équipe. Alors elle ne travaillait pas pour l'ONF, mais elle a toujours été financée par l'ONF. Mais elle tient souvent à faire la distinction. En fait, en 1967, elle était embauchée comme consultante. Elle a tout de suite vu qu'elle était un peu la caution autochtone des projets de l'ONF et ça ne lui plaisait pas. Donc, elle a très rapidement développé des projets personnels. Mais en effet, elle a fait tous ses 50 et quelques films. Elle a fêté ses 91 là, oui, fin août. Et elle continue, elle travaille encore sur un nouveau film. Donc elle a demandé à l'ONF de lui donner une équipe de tournage et ils sont allés sur place. Et quand ça a commencé à vraiment chauffer, les autres équipes de télévision sont parties ou en tout cas sont restées du côté québécois. C'était la seule à être du côté Mohawk. Et il me semble qu'au bout de quelques jours, il y avait même son preneur de son est parti. Donc à la fin, elle a vraiment tourné les images seule ou peut-être juste avec le preneur de son à vérifier. Mais en tout cas, voilà, ils étaient deux. Et, Et le film est sorti 4 ans plus tard, donc en 94, il a beaucoup tourné. Et en fait, ce qui est très impressionnant, comme tu le disais, donc c'est les images de référence, puisque c'était la seule à tourner sur le long terme pendant les événements. Et en 2016, donc au festival, on a accueilli Sonia Bonchepil-Boileau, qui est une jeune réalisatrice mohawk aussi, et qui du coup voulait faire, qui vivait dans la communauté, enfin, elle a vécu, elle était très jeune, ado, au moment de la crise d'Oka, donc elle a vraiment vécu ça, elle a vécu le racisme aussi, donc ça a vraiment clivé la société canadienne, et donc elle a vraiment vécu ça dans sa chair, et au moment de l'anniversaire, donc ça doit être, c'était pour 2015, elle a eu un financement pour faire un documentaire, donc pour témoigner la mémoire de la crise d'Oka. Et en faisant tout son travail d'archive, elle a vraiment, à un moment donné, elle butait sur le manque de ressources. Et en effet, c'est grâce au rush d'Alanis qu'elle a pu vraiment arriver au bout de son documentaire. Et ça a été très... Il y a eu toute une discussion entre Alanis et elle pour faire ce documentaire qui s'appelle « The Oka Legacy ». Qui est malheureusement pas disponible en ligne, mais qui, j'espère, sera reprojeté à d'autres occasions. Mais voilà, on a une transmission intergénérationnelle de cet héritage de la crise d'Oka dans la société canadienne, des images, à quel point les images sont très importantes, deviennent à un moment donné des images d'archives pour l'histoire nationale, et Alanis Obomsawin est une cinéaste, la cinéaste femme, en tout cas autochtone, je pense la plus importante, c'est vraiment la matriarche, elle est considérée, alors il y a Merata Mita aussi, Maori, qui est, c'est les deux sœurs, les deux matriarches, mais en tout cas, partout dans le monde, dans le mouvement du cinéma autochtone, c'est quelqu'un d'éminemment respecté. Et voilà, ce passage de relais entre plusieurs générations, on en est là, en fait. Mais donc oui, c'est une cinéaste aussi, c'est ça que je voulais dire, cinéaste autochtone, mais cinéaste, ses œuvres sont clés, sont majeures dans le cinéma canadien de manière générale.
Et juste pour que le public puisse un peu comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la crise d'Oka? En quelques mots seulement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'il faut continuer à parler de cinéma, mais c'est important que le public puisse comprendre.
Oui, alors il y avait un maire d'une municipalité d'Oka qui avait la géniale idée d'agrandir le terrain de golf et puis de construire une marina. Pour ça, il y avait des territoires mohawks. Et là, je ne rentrerai pas dans la petite histoire parce que ce serait long, mais ces territoires-là, ce n'étaient pas des territoires fédéraux, ce n'étaient pas des réserves hein, comme telles. C'était des territoires qui avaient un statut ambigu. C'était l'ancienne seigneurie Saint-Louis qui avait été cédée par le roi de France, évidemment. C'est le roi de France qui décidait de ce qui se passait en Amérique à l'époque. Et pour pour sauver les sauvages, pour les évangéliser. Alors donc, ces terrains étaient restés sous les Sulpiciens, les grands seigneurs de Montréal. Et il y avait encore un statut ambigu. Et là-dessus, il y avait une pinède traditionnelle plantée, qui avait été plantée par les Mohawks et dans laquelle on trouvait un cimetière. Et vraiment un cimetière, non pas les cimetières bien cordés, bien rangés au cordeau, là, comme on les connaît en zone urbaine, mais vraiment un cimetière qui épouse la topographie naturelle et la végétation. C'est un endroit magnifique. Et évidemment, pour les Mohawks, extrêmement sacré. Eh bien, on voulait le détruire, tout simplement, pour le terrain de golf. Alors, il y a eu des barricades pour empêcher les bulldozers d'entrer. Le maire est allé, a obtenu une injonction en cours, puisqu'il avait le droit théoriquement d'entrer. Et là, sans même prévenir le gouvernement du Québec qui a été pris au dépourvu, le patron de la Sûreté du Québec, la police provinciale, a décidé de faire un assaut, puisqu'il y avait la permission de la cour pour la faire. Donc, au petit matin, le 10 juillet 1990, on fonce sur les barricades avec des bombes lacrymogènes. Et les policiers à matraque viennent foncer. Et c'était les aînés, les femmes, surtout, qui étaient sur le devant de la barricade. Alors, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Alors, ils ont foncé, mais en arrière, il y avait des warriors mohawks armés qui étaient bien cachés. Et quand la police a avancé, ils ont ouvert le feu. Il y a eu une escarmouche, un policier tué. Et la même journée, les Mohawks de Ganawagé qui sont sur la rive sud de ceux-là de Montréal, en solidarité, bloquent le pont Jacques-Cartier. Et ce jour-là, au téléjournaux, le soir, on voyait le pont bloqué. On voyait les Warriors Mohawks de Ganesatagé qui empilaient avec un bulldozer, un grappin mécanique, les voitures de police pour faire une barricade sur la route principale. Alors, la crise venait de commencer.
Merci beaucoup, André, pour cette courte histoire. Tu voulais rajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter, pour si vous êtes curieux et curieuse, je vous conseille de regarder, c'est disponible en ligne. Alanis était l'invité des rendez-vous du cinéma québécois en 2018. Il y a ce qu'ils appellent dans leur programmation une leçon de cinéma. Et donc, vous pouvez assister à 1h15 d'échange avec le programmateur des rendez-vous du cinéma québécois dont le nom m'échappe, mais en tout cas il revient sur alors toute sa carrière, c'est impossible, hein, comme je dis, il y a 50 plus et quelques films, mais en tout cas les moments forts de sa carrière, et ça vous donnera c'est vraiment une personnalité à croiser une fois dans sa vie, Alanis, donc ça vous donnera un peu une idée de qui est Alanis Obomsawin. Donc les rendez-vous du cinéma québécois 2018, leçon de cinéma Alanis, vous tomberez dessus. Il parle notamment de la fabrication du film Incident à Restigouche, qui est aussi un film très important, et les deux entrent vraiment en écho. J'ai re-regardé pour préparer cette table ronde le film que vous verrez demain de l'Indian Film Crew, You Are on Indian Land, et vraiment ça entre vraiment en écho avec les films d'Alanis, de se dire aussi qu'en 1969, je crois que c'est cette année-là que le You Are on Indian Land est tourné, qui raconte aussi l'histoire d'une barricade, d'un blocage de pont pour simplement faire valoir ses droits, en fait, faire respecter des droits garantis par traité. Il y a vraiment une histoire qui se répète, mais je vous conseille le film de demain, You Are on Indian Land, où on voit à quel point ils sont combattants et en même temps pas du tout dans l'agressivité, dans l'image de terroriste qu'on veut donner aux combattants. C'est assez fort. Donc voilà.
Et donc là, on a un peu vu le rôle de l'ONF avec notamment l'Indian Film Crew et la présence d'Alanis Obomsawin, qui n'a pas été donc cinéaste à l'ONF, mais financé par l'ONF. Et ensuite, après l'Indian Film Crew, il y a eu aussi une volonté de renforcer l'aspect de formation professionnalisante avec quelque chose qui s'appelait l'Indian Film Training Program en 1971. Et puis il y a un des cinéastes dont on va voir des films demain, si vous êtes là, qui s'appelle Michael Kanentakerun Mitchell, qui lui en 73 demande la création, parce que l'ONF s'organisait en studio et donc demande la création d'un studio autochtone, et en fait ce studio autochtone, il a fallu attendre le début des années 90 pour qu'il existe vraiment, je pense, qui s'appelait le Studio One. Mais justement au début des années 90, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs dispositifs qui commencent à se créer au niveau de l'aide à la création ou les moyens de faire collectif autour de la création autochtone. Il y a un exemple qui est vraiment issu de la communauté inuit qui s'appelle le collectif Isuma, et comme on va voir peut-être les films de Wapikoni Mobile tout à l'heure et qu'on pourra faire une présentation, je pense qu'on peut s'intéresser à Isuma là maintenant.
Oui, alors là, Isuma, l'ONF l'a oublié, ça n'a aucun rapport. Hein? Alors, les Inuits, il y a quelque chose de particulier. D'abord, ce sont de très fins diplomates et de très fins négociateurs. Alors ça, moi, je me dis souvent, les chefs amérindiens, proprement dit, ont intérêt à suivre des cours de formation avec les leaders inuits, vraiment. Mais aussi, il y a un avantage. Ils sont dans l'extrême nord du Canada, dans des zones que les autres nations disent non, c'est pas du territoire, c'est la mer Arctique. Donc, c'est un océan, c'est international. Alors, quand des navires américains s'en viennent dans le nord canadien, évidemment, les radars, les gardes-côtes s'en rendent compte. Et là, le gouvernement canadien, tout de suite, émet une permission pour qu'ils entrent. Ils ne l'ont jamais demandé, hein, mais en fait, c'est une façon d'assumer sa souveraineté dans l'Arctique. Et l'autre façon, c'est de dire, vous voyez, il y a des populations canadiennes, les Inuits. Alors, les Inuits, évidemment, se trouvent comme ça dans une position stratégique où ils peuvent réclamer des choses du gouvernement canadien que d'autres nations n'ont pas le même je ne sais pas si on peut dire privilège, mais en tout cas, la même situation. Et quand ils ont voulu amener par satellite la télévision dans le Nord, les Inuits ont dit « Oh non, 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 vous n'allez pas nous bombarder avec des produits du Sud si on n'a pas notre propre télévision. » Et c'est là que s'est créé des sociétés de communication inuites. Il y en a eu plusieurs selon les endroits. Et qu'ils ont commencé à faire des productions locales. Et il y avait, il me semble, c'est IBC, oui, Inuit Broadcasting Corporation, qui était là au Nunavut, donc à l'ouest de la baie James. Et le bureau chef était à Iqaluit. Et c'est là que Norman Cohn, qui est un cinéaste montréalais, est envoyé pour faire de la formation. Et une des personnes qui était formée pour animer la télévision, c'était un jeune, tout jeune homme qui s'appelait Zacharias Kunuk. Et alors donc, il filmait des parties locales, il faisait il y avait des actualités locales et tout. Mais quand ils ont voulu entrer la fiction, la direction du canal a dit non, 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 c'est des enfantillages, nous on fait des choses sérieuses, des documentaires, on fait parler les leaders et tout. Alors ils ont commencé à faire des films de manière tout à fait indépendante. Et des films qui ont commencé d'ailleurs, où ils ont commencé à reconstituer justement des scènes de la vie traditionnelle, mais avec une narration, cette fois-là, vraiment inuite. Ces films-là ont circulé beaucoup mondialement dans les festivals underground, assez curieusement, ou dans les festivals de cinéma expérimentaux. Et à un moment donné, ils ont, comme ils devenaient reconnus, ils ont eu des fonds de Téléfilm Canada. Et là, Téléfilm Canada, ils devaient faire encore un moyen métrage. Et ils ont puisé tous les fonds. Ils ont dit, on n'a pas fini, on fait un long métrage, ça nous en prend encore. Alors Téléfilm Canada, très fâché, leur dit, ah non, vous avez crevé votre budget, vous n'avez pas respecté votre entente. Alors non, c'est fini, le film ne se fait pas. Alors là, ils ont mobilisé, et là, tout le monde au Canada, on a tous écrit, à l'année, y compris, des lettres au gouvernement, des lettres à Téléfilm Canada, disant « Vous allez laisser Zacharias Kunuk finir son film. » Effectivement, il sort son film, il est amené à Cannes, et il gagne la Caméra d'or, hein, pris pour le premier long-métrage. On est en 99 ou 2000. Alors, coup de tonnerre, le lendemain, l'image iconique de ce film-là, où on voit le Atan Arjouat, le personnage du film, courir nu sur la banquise, et partout, partout, dans tous les bureaux de Téléfilm, grand succès, voyez le cinéma autochtone au Canada, comme c'est génial. Bon, depuis, Téléfilm ont, sur cette foulée-là, voulu et cherché, pas toujours très adroitement, à ce qu'il y ait un cinéma autochtone, mais il y a eu un appui subséquent. Mais encore une fois, c'est par une levée de bouclier, c'est par la pression, c'est par la ténacité que ces programmes maintenant accessibles à Téléfilm ont été ouverts. C'est pas venu naturellement. Alors, attention, à l'intérieur des structures fédérales canadiennes, il y a toujours une... Et même encore aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement disparu, des rigidités coloniales qui font que parfois, il faut encore sortir les tomahawks pour faire avancer des choses.
Oui, ou les arcs. Oui, juste un point que je voudrais ajouter sur le fait justement que l'équipe d'Isuma a dû vraiment batailler pour produire Atan Arjouat, c'est notamment ils ont dû lutter pour, enfin, auprès du Conseil des Arts et d'autres institutions pour que le film se fasse en langue inuit, en Inuktitut, et ça c'est vraiment quelque chose de très important dans toutes les productions cinématographiques inuit contemporaines, c'est la volonté de produire des films en langue inuit, en Inuktitut, puisqu'il y a encore beaucoup d'inuitophones aujourd'hui. Et que ce n'est pas du tout quelque chose qui a été évident de financer au départ. Et aujourd'hui, ils sont aussi, enfin, la continuité notamment d'Isuma, c'est Uvagut TV, enfin, un réseau de télévision indépendant en langue inuit qui vise à proposer une programmation quotidienne au moins de 6 heures, enfin, 6 heures en Inuktitut ou en Inuktut, hein, donc une variante dialectale de la langue inuit de l'Arctique oriental canadien. Et cette, la langue étant vraiment véhiculant une vision du monde, une cosmologie particulière, un système classificatoire particulier, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important, la langue utilisée pour les productions cinématographiques.
Donc on arrive quand même là à une certaine étape où c'est des, comment dire, là par exemple les Izuma, c'est une création qui émane d'autochtones et qui est faite pour les communautés autochtones, et donc on a réussi à peu près à traverser ce que j'espérais traverser pendant notre discussion. Et surtout là je me demande s'il n'y a pas des questions dans la salle, parce qu'on a beaucoup parlé et que j'imagine qu'il y a peut-être des questions dans la salle, donc j'ai un micro et je peux vous le passer si vous voulez.
C'est ça, il faut bien briser la glace. En fait, c'est moins une question sur le sujet que vous venez de couvrir, mais qui en découle. Vous avez fait plusieurs recommandations, parlé de plusieurs grands cinéastes. Avez-vous d'autres recos pour le public ici ce soir, en termes de films produits par des Inuits des Premières Nations ou autres ?
Des recommandations.
Pour
des films incontournables qu'il faudrait voir et qui dont on n'a pas forcément parlé ce soir.
Oui, il y en a beaucoup. Il y a un truc, parce que justement, on parlait de la journée vérité-réconciliation. Enfin, réconciliation, vérité, alors là, oui, j'adhère. Réconciliation, ça peut encore attendre. Mais il y a eu quelque chose de très fort, c'est ces sépultures anonymes hein, qui ont été découvertes, on en a fait mention tantôt. Ça a vraiment là, ébranlé l'opinion canadienne, et ça a quelque chose de très fort aussi chez les nations autochtones, puisque c'est un peu comme si on dit que les enfants reviennent à la maison. Et dans cette foulée-là, il y a eu une autre grande institution coloniale qui s'appelle Radio-Canada, qui s'est associée, mais là, ça c'est vraiment nouveau, avec une boîte de production autochtone, justement dirigée, où son Urban Spiel Boileau, dont on parlait tantôt, a réalisé une série télé qui se passe entièrement dans une école résidentielle, avec, comme conseiller culturel sur le plateau, des survivants qui ont passé, qui ont vécu l'expérience du pensionnat. C'est vraiment très fort. C'est visible sur tout.tv, il y a des frais mineurs, là. Alors tout.tv, et ça s'appelle Pour toi, Flora. Et ça a vraiment été un grand succès de Télévision Québec, et là, ça vient de sortir. Et c'est vraiment très, très fort. Un autre truc qu'il faut voir, à mon avis, absolument, qui est un peu déroutant, parce que c'est un film fantastique qui tient un petit peu du film, un peu du film d'épouvante, un peu d'un film ironique. En tout cas, c'est une vision fantasmée, complètement irréelle, d'une certaine façon, qui s'appelle pas balade, voyons. Berceuse, comment on dit? For Young Ghoul.
Oui, c'est Rhymes for Young Ghoul.
Rhymes for Young Ghoul de Jeff Barnabé. À voir absolument, il y a une version française aussi. Jeff Barnabé est un Mi'kmaq, mais avec une vision, une force poétique très, très, très grande. Et là aussi, c'est un film qui a beaucoup marqué des imaginaires. En tout cas, il y a au moins ces deux productions-là, moi, que je dis, en plus de celle de Zach Kounouk, qui sont, je dirais, les premières. Il faut vraiment les voir. Puis évidemment, l'Anis, ben, là... on n'a même pas besoin d'en parler. C'est effectivement la mère, la grand-mère, est toujours la productrice et la réalisatrice de grands documentaires sur les questions autochtones au Canada.
Moi, je rajouterais juste, effectivement, pour les Inuits, Alessia Arnahour Baril, qui a produit Inuk en colère, enfin, qui a réalisé Inuk en colère sur les effets dramatiques, les effets dramatiques de l'interdit d'importation de produits dérivés du phoque, donc interdit passé par l'Union européenne, par l'Union européenne en 2009, et tout d'abord en 1982, là c'était plus pour le blanchon, donc le petit phoque, et qui a vraiment des effets dramatiques socio-économiques très graves dans les communautés inuites. Donc ça, c'est un film de 2016, Inuk en colère, que je recommande particulièrement, et d'autres productions d'Alessia Arnahour Baril.
Alors, la tâche érude, il y en a tellement. Là, comme ça, je dirais, le festival Signes Alternatifs est tout petit, hein, 10 ans de programmation comparé aux 32 ans de présence autochtone à Montréal. Mais du coup, vu qu'on avait des moyens très réduits et très peu de fenêtres de programmation, c'était un peu mes coups de cœur. Donc en fait, en puisant dans ces sélections-là, il y a un peu ce que nous, en tout cas, on considérait comme des incontournables. Et donc sur notre site de laplumealecran.org, dans la rubrique Festival Ciné Alternatif, il y a les liens vers les films qui sont accessibles en ligne. Donc de nos 10 ans de programmation, vous retrouverez Inouk en colère, aussi les films de Sonia Bonchepil-Boileau qui sont pour ceux qui sont accessibles en ligne. D'ailleurs, la série Pour toi Flora, les droits ont été achetés pour la France, donc on devrait pouvoir voir la série, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas les droits sont achetés, donc c'était l'excellente nouvelle de la semaine dernière. Et donc voilà, ça fait une première sélection de films, y compris les courts-métrages certains courts-métrages de Jeff Barnaby aussi. Ce qui me permet de rebondir, il y a une plateforme qu'il faut absolument que vous connaissiez, puisqu'on est dans une programmation de documentaires Canada, et on a beaucoup parlé de l'ONF. Dans ce processus de vérité, réconciliation et un budget qui a été voté au sein de l'ONF pour justement mettre en ligne, en accès libre, alors principalement pour le Canada, mais il y a quand même certains films qui sont accessibles, qui ne sont pas géobloqués pour la France aussi. Donc la plateforme s'appelle tout simplement Cinéma Autochtone et ça répertorie pour l'instant à peu près 300 films qui ont été produits par l'ONF et réalisés par des équipes autochtones. Ils vont en alimenter. Il y en a plus en réalité qui ont été produits, mais ça va, l'alimentation va se faire au cours du temps. Il y a des droits à négocier, c'est très compliqué, l'audiovisuel. Mais en tout cas, ça fait déjà 300 et quelques films à regarder, et parmi lesquels donc, il y a les films d'Alanis Obomsawin, incontournables, et quelques autres réalisateurs et réalisatrices canadiennes. Voilà. Et puis bah, dans les stars montantes, il y a Caroline Monet que vous avez programmée au Centre culturel canadien. Là, comme ça, moi j'aime beaucoup, j'espère qu'on pourra bientôt projeter, ça fait quelques mois que je travaille là-dessus. Donc, il y a une réalisatrice Cree Métis qui s'appelle Tasha Hubbard et qui a fait deux magnifiques documentaires, donc un qui s'appelle, j'ai des problèmes avec les titres, c'est terrible, vite, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur le 60 Scoop, donc on ne va pas tout détailler, mais donc cette rafle d'enfants qui était, c'était la politique de l'époque au Canada de placer les enfants autochtones dans des familles non autochtones, et en plus les enfants d'une même fratrie n'étaient pas placés dans les mêmes familles, donc vous avez des générations de personnes qui ont passé du temps à rechercher leur famille biologique et à réunir leur fratrie. Et donc, elle a Birth of a Family, donc Naissance d'une famille, c'est ça le titre du film. Elle-même, Tasha, donc, est une enfant adoptée, elle a retrouvé sa fratrie, mais elle dépeint le parcours dans ce documentaire d'une autre famille. Et le dernier qu'elle a réalisé, qui est aussi très très fort, qui s'appelle Nous nous lèverons, je ne vous dirai pas, le titre a absolument affiché, c'est le titre en cri, mais là j'avoue que je l'ai oublié, ça veut dire Nous nous lèverons, et donc ça c'est ça touche au racisme systémique et ça dépeint le combat judiciaire d'une famille dont un jeune de 17 ans a été abattu à bout portant, et donc ça retrace le procès. Je ne vous dis pas la fin, mais vous imaginez que ça ne se termine pas très bien. Et c'est vraiment elle le décrit comme un récit, comme un tressage de trois histoires. Donc l'histoire de le récit donc de ce jugement. Le deuxième tissage, c'est elle en tant que mère de famille de deux jeunes garçons autochtones, donc potentiellement victime à l'avenir de violences à cause de ce racisme systémique. Donc on voit ses enfants à l'écran, elle met en scène sa famille et toutes ses réflexions quand ce genre de drame arrive, toutes ces réflexions qui sont alimentées au sein des familles. Et la troisième tresse, c'est l'histoire du Canada en général. C'est un film très très fort.
Bonsoir. Merci beaucoup. J'avais une question sur le Wapikoni mobile et juste sur le financement, parce que vous avez beaucoup parlé de l'ONF, du coup, si c'était en lien avec.
Oui, alors vous voulez savoir ce qu'est le Wapikoni Mobile, d'où ça part?
Et comment il est financé, et est-ce qu'il est financé par l'ONF ou pas?
Alors, le Wapikoni Mobile, d'abord, vient d'une une initiative très personnelle. Il y a une cinéaste bien connue au Québec qui s'appelle Manon Barbeau, qui préparait un projet de film avec qui se passait chez les Atikamekw, qui est une nation autochtone du Québec. Et elle travaillait avec une jeune Atikamekw qui s'appelait Wabugoni, qui veut dire fleur dans nos langues. Et la jeune fille a été frappée par un camion qui transportait du bois, parce que le territoire Atikamekw est très attaqué par les forestières. Et évidemment, comme elles étaient devenues très amies à travailler ensemble à ce projet, Manon a tout de suite, à cause du deuil, du choc, abandonné le projet. Puis elle s'est dit, non, il faut que je fasse autre chose. Et c'est là qu'elle est allée rencontrer le comité des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui est l'Assemblée des chefs, en fait, élus localement, et qui ont un comité jeunesse. Et là, ils ont élaboré un projet culturel s'adressant justement aux jeunes des communautés éloignées. Hein, j'en parlais tantôt, là où la pauvreté aussi, c'est la pauvreté d'activité pour les jeunes, et notamment sur le plan culturel. Et ils ont conçu l'idée d'un programme d'initiation à l'audiovisuel où les jeunes pourraient faire leur propre court-métrage. Et à l'époque, il y avait André Picard, là, qui était le patron du secteur français de l'ONF. Et André Picard a dit « Oui, nous, on va vraiment appuyer ce projet. » Et donc, le premier mobile qui a été créé, qui est parti en 2007, a été créé sous l'égide de l'ONF, et le Wapikoni Mobile a pu bénéficier de locaux à l'ONF. Par contre, le financement, fallait le trouver, et c'est une productrice de cinéma qui s'est beaucoup attachée au projet et qui va chercher, fait vraiment des miracles, va chercher du financement privé, du financement gouvernemental, racle les fonds de tiroir partout. Franchement, je suis un peu jaloux, j'aimerais qu'elle travaille pour le Festival Présence autochtone. Et l'ONF a contribué à la naissance du Wapikoni. Le premier mobile, ça a été un véhicule motorisé de camping qui a été transformé, un peu bricolé dans le fond, pour pouvoir accueillir tout ce qu'il faut pour faire un court-métrage. Mais maintenant, avec la pluralité des sources de financement puis la reconnaissance du travail du Wapikoni, il y a plusieurs mobiles, et celui que vous voyez, qu'on voit à l'écran dans les annonces de ce programme, il est tout récent, et celui-là a été vraiment bâti pour le Wapikoni Mobile. Donc, c'est quelque chose qui a commencé relativement modeste, mais qui est rendu maintenant une grande institution majeure reconnue partout dans le monde. Voilà. Sinon, il y a encore plein de choses à raconter, mais on le fera à la séance sur le Wapikoni.
Juste pour rebondir, donc, par rapport aux essentiels, mais aussi pour vous donner des pistes pour regarder d'autres films autochtones que ceux de la programmation ici chez vous. Donc le Wapikoni, il y a une grosse partie de leur production qui est disponible en ligne sur leur site wapikoni.ca. Et aussi Issouma, quand même. Issouma a toujours été, le collectif Issouma est toujours précurseur de plein de choses depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours un pas d'avant sur, ils ne sont pas seulement de fins négociateurs, ils sont aussi visionnaires. Et donc c'était le premier collectif autochtone à mettre en place une plateforme, alors qui était là pour le coup, autant la production est très inuite et à destination des Inuits, et une grande partie de la communauté sur place est investie dans la réalisation, la production des films. Mais là, la plateforme était pensée pour les autochtones du monde entier qui pouvaient déposer leurs films et ainsi se partager via Internet leurs productions respectives. Donc ça, c'est toujours en ligne, issouma.tv. Sans être trop longue, mais ce que je trouvais aussi génial à l'époque, c'est que donc, l'accès à Internet dans beaucoup de communautés isolées du Grand Nord, vous imaginez que l'accès par satellite, tout ça, c'est très compliqué. Et donc là aussi, pour pas que leur propre communauté se sente lésée par un projet qui était utile au monde entier, ils ont développé des moyens techniques pour apporter des serveurs. En fait, ils chargeaient les films sur des serveurs, donc des disques durs matériels, et ils les emmenaient dans la communauté où là, du coup, tous les ordinateurs pouvaient être connectés comme un intranet. Et donc régulièrement, je ne sais plus si ça se fait encore maintenant, mais en tout cas pendant très longtemps, il y avait des voyages entre Montréal et Iglouïc pour après dispatcher les serveurs. Donc voilà, il y a toujours cette obsession de servir, d'être utile, pas juste récolter les palmes d'or à Cannes ou œuvrer pour le cinéma autochtone international, c'est comment tout ce que je fais, tous les sous, on ne parle pas non plus, hein, mais les sous en tout cas qu'on arrive à avoir, comment ça peut aussi servir la communauté dont je suis issue, et ça c'est quand même assez fort. Donc en tout cas vous avez accès à plus, je crois qu'actuellement il y a plus de 7000 films sur issouma.tv, beaucoup dans plusieurs langues.
Beaucoup de films inuits aussi.
Oui, il y a beaucoup de films inuits aussi, mais voilà, c'est d'une grande richesse. Et il y a beaucoup de textes aussi, enfin, certains films sont contextualisés, c'est une vraie ressource très importante.
Bonsoir, merci d'être là, merci pour ces échanges très riches. Je voulais savoir justement, c'est un petit peu dans la continuité de ce que vous disiez, mais s'il existe déjà une plateforme ou un lieu concret de dialogue entre les différents peuples inuits, pas seulement du Canada, mais aussi du Groenland et d'Alaska. Ou est-ce qu'au sein de votre festival, il y a un échange comme ça qui peut avoir lieu entre ces différents peuples sur différents territoires?
Il y a déjà une organisation inuit circumpolaire qui existe. Je me souviens, il y a des années de ça, là, ça devait être au début des années 2000, à Gand, au Centre culturel Vaurout. Ils avaient organisé un festival nordique et j'y étais allé parce que Terres en vue, on y avait participé, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais je me suis retrouvé un soir à Gand à aller prendre un café et il y avait des Inuits du Canada, du Groenland et de l'Alaska qui conversaient entre eux et pouvaient se comprendre, ce qui m'étonnait beaucoup. Alors ils ont dit oui, faut préciser parce que c'est des dialectes différents. Donc ce contact existe déjà chez les Inuits. Là. Parlez pas de nos festivals, les Inuits s'entendent très bien pour s'organiser entre eux. Encore une fois, ils sont ils ont ce sens de l'organisation et du dialogue. Ils sont vraiment très forts.
Et donc, il y a 5 ans, je crois, il y a une alliance cinématographique de l'Arctique qui s'est créée. Et dans l'idée de faire des coproductions, donc je me souviens à Imaginative, peut-être que tu l'avais programmé aussi, il y a eu cette même légende que les peuples de l'Arctique partagent, mais réalisée par une cinéaste d'Alaska, une cinéaste du Groenland. Donc ils ont obtenu des financements des différents pays concernés, sauf la Russie, parce qu'il y a... Mais c'est compliqué, c'est toujours des financements là aussi à trouver, mais il y a ces alliances-là qui existent, et puis les festivals internationaux comme Présence Autochtone ou Imaginative, ou il y a 2 festivals de films autochtones en Nouvelle-Zélande aussi. Enfin, c'est, les festivals, il y a les projections, mais il y a aussi évidemment tout l'informel, et c'est des moments très... C'est ce que j'essaye de décrire dans le livre. C'est vraiment tous ces échanges informels et ces moments d'entraide aussi, où les cinéastes se partagent leurs difficultés et pour trouver des financements, mais aussi pour être distribués, et donc ils échangent des solutions et ils échangent des envies de créer ensemble. Donc là, il y a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Dani Goulet, qui est une autre cinéaste canadienne métis à suivre, qui a fait la première coproduction maori autochtone du Canada, donc le producteur Taika Waititi, que tout le monde connaît maintenant grâce aux productions Marvel, mais avant de faire des Marvel, il a fait d'autres films excellents. Et voilà, c'était la première coproduction transnationale autochtone, mais quand on parle, on n'a pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, mais quand on parle de ça, de production autochtone, c'est pas juste, là encore, un titre, c'est que derrière, en termes de réalisation, en termes de qui est impliqué dans l'écriture, dès très en amont, qui est impliqué dans la réalisation de la production sur place au sein des communautés, comment on interagit avec les communautés dans lesquelles on tourne, et puis après qu'est-ce qu'on fait de ce film, à qui on le destine dans un premier temps, et quelle circulation il va avoir, enfin tout ça est en amont et en aval très, très réfléchi, et c'est tout ça ce que le mot cinéma autochtone en fait implique.
Ce sera peut-être la dernière question, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse une petite pause entre la discussion et la projection. Mais voilà.
Merci. Moi, je voulais mentionner le film Je m'appelle Humain, et puis rendre hommage évidemment à Joséphine Bacon, ou Bacon, je ne sais pas. Et puis vous demandez, parce qu'il y a une telle production aussi littéraire de la part des autochtones, comment vous voyez le lien peut-être et le matériau extraordinaire en littérature qui peut donner lieu à des créations cinématographiques. Merci.
Oui, l'exemple canonique qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est Witsi Aihamera. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est un grand écrivain. Je pense qu'il y a 7 ou 8 de ses livres qui ont fait des longs-métrages. Donc, un là, qui s'appelle, je crois, Sur le dos de la baleine, quelque chose comme ça. C'est le plus connu qui a vraiment fait le tour du monde, mais il y en a plusieurs autres. Au Canada, au Québec, ce qu'il y a de particulier, c'est récent. La poésie, Joséphine Bacon est connue depuis longtemps, mais ses poèmes, c'était dans le privé qu'on les connaissait. Et il y a Rodney Saint-Éloi, qui est un originaire d'Haïti, qui a fondé une maison qui s'appelle Mémoire d'Encrier, qui était destinée à la littérature francophone des Noirs, et qui a d'abord a commencé à publier des poètes francophones du Québec, des Innus surtout d'ailleurs, et une romancière qui a écrit un roman qui s'appelle Quispan, qui a été porté à l'écran, qui a été un beau succès d'ailleurs au Québec, et qui a été vraiment une coproduction québéco-autochtone, puisque Élise Frappier, la productrice, a tenu à ce que toute la communauté soit impliquée dans le film. Donc, toute l'équipe qui était en bonne partie québécoise a vécu dans la communauté, et dans le cas de Je suis humain, là, tout le monde rêvait de faire un film avec Alanis. Et c'est finalement Kim Obomsawin qui est aussi une jeune cinéaste à surveiller, mon tante, qui l'a réalisé. Ça s'appelle Je suis humain. Hein? Inu Unil. Je suis humain. Innu, c'est le nom de la nation, mais Innu, étymologiquement, dans la langue, ça veut dire être humain. Donc, et c'est un film admirable, surtout à cause de Joséphine, qui est une grande poète, un être adorable. Et oui, ça devrait être dans les films qu'on a mentionnés tantôt. Merci de nous le rappeler.
Eh bien, merci beaucoup. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Céline?
Je voulais juste ajouter, par rapport à la production littéraire, que dans le cas des Inuits, c'est beaucoup la tradition, et pour d'autres sociétés amérindiennes, enfin autochtones, c'est vraiment la tradition orale qui nourrit, donc c'est des récits, hein, des narrations, déjà, mais des récits de la tradition orale qui nourrissent énormément les productions cinématographiques contemporaines.
Alors, à nouveau, merci beaucoup à vous et merci pour vos questions. On fait une courte pause, vraiment juste pour... et après, il y a les films de WAPI Konimobile et on va faire une présentation avec André qui vous permettra de peut-être encore mieux comprendre ce que c'est WAPI Koni. Et pour toutes les personnes qui sont fraîchement arrivées, on va tout vous raconter. Donc, à tout de suite.